Nous allons continuer ce matin la série commencée hier soir sur le livre de Job, le personnage de Job et le sujet de la souffrance. Dans notre première étude hier soir, on a vu Job et ses amis dans leur contexte historique, géographique. Ils étaient plutôt du côté de la Jordanie. Les événements se sont passés sans doute à peu près à l'époque d'Abraham, ce qui fait que sans doute Job est le premier livre complet à avoir été rédigé et qui figure dans la Bible. Et c'est intéressant que la première fois qu'on a l'écriture parlant d'homme, le sujet de la conversation, c'est la souffrance. Pourquoi l'homme souffre-t-il? Pourquoi le mal existe-t-il? Et c'est des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Donc, tout le livre tourne autour de la question « Pourquoi la souffrance ?» Nous allons revenir donc dans le premier chapitre du livre de Job et voir le contexte. Nous savons pourquoi Job a souffert. On ne sait pas toujours pourquoi nous souffrons, mais en tout cas, pour Job, c'est très clair et on a la réponse avant la situation de la souffrance. Dans le verset 8 du chapitre 1er, l'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » On a l'impression que Dieu suscite le défi, il défie Satan, on pourrait dire, sur le dos de Job. Il dit: « T'as vu cet homme? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il m'aime réellement et sincèrement. » Évidemment, l'ennemi de Dieu ne va pas dire: « Oui, tu as raison. » Pour Satan, Dieu n'a jamais raison. C'est perfide parce que Satan sait au fond de son cœur que Dieu a toujours raison. Il le sait. Mais il prétend que Dieu a toujours tort. C'est terrible de vivre dans un tel mensonge. Et donc, évidemment, il va relever le défi. « Non, mais ce n'est pas possible qu'un homme puisse t'aimer et t'adorer pour ce que tu es. Ce n'est pas possible. Tu les achètes, tes adorateurs. Tu leur fais des bénédictions et comme ça, tu leur graisses un peu la paume, hein? Et comme ça, ils t'adorent. Tu achètes cette adoration. » Et donc, Dieu va permettre à Satan d'éprouver Job terriblement. Souvenons-nous, Lucifer a voulu recevoir l'adoration qui est due uniquement à Dieu, Créateur et Tout-Puissant. Et c'est la raison de sa chute. Il voulait être adoré. Depuis sa chute, il cherche par tous les moyens à récupérer cette adoration et à influencer les hommes de se détourner de leur Créateur. Pour cela, Satan emploie une grande variété de moyens. Il a tant travaillé dans le monde pour amener les hommes à la méchanceté que l'humanité a globalement repoussé Dieu et son autorité au point que Dieu a détruit l'humanité par un déluge 15 siècles après la création. Mais Dieu connaît ici son serviteur Job. Il est confiant que son serviteur Job a les moyens moraux et spirituels de résister à toutes les épreuves que Satan pourrait lui infliger. Et en cela, nous avons la même promesse en Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté ou éprouvé au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, pourvoira un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous avons la même promesse qu'avait Job. Dieu va donc permettre à Job d'être très durement éprouvé, mais Dieu va limiter l'épreuve dans le temps et dans son intensité. Dieu savait exactement de quoi Job était capable. Et sans doute, il a permis à Satan d'aller au maximum des capacités de Job. Mais il n'est pas allé au-delà de ce que son serviteur pouvait supporter. Dieu sait exactement ce qu'il va permettre dans cette épreuve. Il sait comment va se terminer l'épreuve. Et à travers cette épreuve, il saura enseigner Job, il saura valoriser Job auprès de ses amis et Dieu pourra prouver à Satan qu'il lui-même est digne de louange et de loyauté dans la pire des épreuves. Le livre de Job existe pour la gloire de Dieu, pour prouver que Satan a tort, pour prouver qu'un homme, une femme, un être humain comme vous et moi, nous pouvons être fidèles à Dieu et lui faire confiance dans la pire des épreuves. C'est extraordinaire. C'est à la louange de Dieu, mais c'est aussi Dieu nous salue en disant, vous en tant qu'être humain, sans tout comprendre, vous pouvez me faire confiance, vous pouvez m'adorer et vous le faites. Et ça, ça contribue à la gloire de Dieu. Dieu montre ici aussi très clairement que Dieu n'envoie pas l'épreuve. Dieu n'a pas imaginé l'épreuve, Dieu l'a permise. Il l'a permise. Il a permis à Satan d'éprouver tout en fixant la durée de cette épreuve. Job, comment réagit-il à cette épreuve? Nous savons comment il réagit. On a tout le livre qui raconte sa réaction. À la première épreuve, celle de perdre toutes ses possessions et tous ses enfants, c'est surtout les enfants qui étaient une perte terrible, 10 enfants d'un seul coup. Il entre en deuil. Il a raison. Il se met dans les vêtements les plus primaires. Il se rase la tête, signe de deuil. Il montre qu'il est dépourvu de tout. Comme un bébé qui vient de naître, il se prosterne en signe de douleur et de supplication. Et puis, il se rappelle à lui-même et il dit à haute voix qu'il est venu au monde sans rien, il mourant en laissant derrière lui tout comme il est venu. Le même Dieu qui a donné toute sa richesse a parfaitement le droit de tout lui enlever. Il ne peut que bénir le nom de Dieu qui de lui avoir permis de bénéficier de ses richesses pendant tout le temps qu'il les a eues. Vous savez, quand une maladie nous frappe et on a une douleur, pour la première fois, on a vécu 60 ans pratiquement sans maladie, et puis les maladies s'accumulent, puis on blâme Dieu, on devrait dire, « Seigneur, merci pour les 60 ans de bonne santé que j'ai eue. » Et si ce n'est pas terrible maintenant, rien ne peut enlever la santé que tu m'as donnée. À la deuxième épreuve, il perd sa santé justement. Parce qu'une fois qu'il avait parfaitement réussi la première épreuve, Satan revient à l'attaque parce que Dieu lui fait remarquer, tu vois, mon serviteur est resté intègre. Il dit, ouais, mais bon, la santé c'est tout. Tu touches dans la santé là, il te maudira en face. Et Dieu dit, tu peux y aller, mais tu ne peux pas le tuer. Et là, Satan, diabolique comme il est, il trouve la pire chose. Une maladie qui fait très mal, qui défigure, une maladie qui inspire le mépris, le dégoût pour un homme qui jouissait d'une grande réputation, un homme qui était universellement respecté, il a réduit à une loque. Et donc il souffre atrocement, il est terriblement défiguré, et là il va plus loin dans le deuil, il s'assied dans la cendre, signe d'une profonde désolation et de malheur, et puis il se gratte ses ulcères avec un morceau de poterie. Quelle terrible chose! Sans doute il est sorti du village. Les ulcères de la peau sont extrêmement contagieux. Alors sans doute la population, peut-être lui-même s'est hâté de sortir du village, ou ne pas avoir contact avec des gens pour ne pas infliger cette maladie à d'autres gens, comme la lettre. Sa femme devient extrêmement amère contre Dieu et lui dit, tu devrais maudire Dieu et mourir. Peut-être tu devrais te suicider. Regarde comment tu es devenu, comment tu étais, comment tu es devenu. C'est pas la peine de continuer à vivre. Ça n'a plus aucun sens que tu vives. C'est intéressant qu'on a aussi ce débat dans la société actuelle. Quelqu'un qui est très malade, qui ne peut plus bouger ou qui a beaucoup de douleurs, on dit, vu comme tu es maintenant, ça ne vaut pas la peine de vivre, on peut te permettre, on peut t'aider à finir ta vie. Si certains critères ne sont pas remplis, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà ce que nous disons aujourd'hui. Nous oublions que la vie est donnée par Dieu. Notre vie a une valeur infinie, rien qu'à cause de celui qui nous permet de vivre. Et c'est lui qui doit mettre fin à notre vie, comme c'est lui qui nous a permis de commencer notre vie. Mais donc, la femme de Job est tout à fait moderne. Les conditions idéales ne sont plus réunies pour que tu continues à vivre. Autant te supprimer. Job répond à sa femme que pendant toute leur vie, ils n'ont eu que des bienfaits. Que des bienfaits, que des bénédictions. Alors, il dit, on a quand même, je veux dire, celui qui nous a fait tous les bienfaits, il a bien le droit de nous envoyer quelques malheurs. C'est normal, ça équilibre. Alors, ce n'est pas qu'il les aimait, mais il dit, Dieu a le droit de nous faire connaître des épreuves et des malheurs. S'il choisit de le faire, il en a le droit. Et si je passe maintenant par des moments très difficiles, je ne peux pas me plaindre parce que j'ai eu tant de bénédictions que je dois accepter aussi ces malheurs. Bon, alors il va plus loin. Et là, à travers la souffrance qui commence à le miner dans le chapitre 3, nous pouvons par exemple lire, il dit verset 3, « Périsse le jour où je suis né » et la nuit qui dit « en enfant mâle et conçu ». Et à travers le chapitre 3, il va dire, écoute, si je devais choisir entre la vie que j'ai vécue, une très belle vie d'ailleurs, et ne jamais être né, si je devais choisir entre les deux, je choisirais la deuxième option. Vu la sévérité de mes souffrances maintenant, j'aurais préféré ne jamais naître. Il dit, j'aurais préféré que ma mère fasse une fausse couche, qu'elle m'ait perdu au cours de sa grossesse et que mon jour de naissance ne soit jamais arrivé. Il dit, dans le séjour des morts, au moins, si j'étais mort avant de naître, je serais dans le séjour des morts. Et pour la pensée orientale à ce moment-là, ce que les gens savaient, ils avaient donc l'impression que, évidemment, les morts se retrouvent quelque part, mais en tout cas, les méchants ne peuvent plus agir dans la méchanceté. Ceux qui sont morts juste se reposent, et tous les hommes sont égaux. C'est ce qu'il dit dans les versets 17 à 19. Dans le verset 25, verset 25 du chapitre 3. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il dit, et on peut vraiment, on peut s'identifier à lui. Job dit, j'ai toujours redouté que la souffrance m'atteigne un jour. J'ai pas souffert, mais j'ai toujours redouté, et si ça me tombe dessus, la souffrance. Et là, ce que je redoutais m'est arrivé. Il est troublé, il est angoissé. On pourrait dire, il a dit, ça y est, c'est tombé. J'avais espéré finir ma vie comme dans la bénédiction, mais non, ça y est, ça m'est tombé dessus, fatalement. Alors, il a trois amis qui viennent le voir. Ce sont quand même de vrais amis. On n'échappe pas à l'idée qu'ils sont sincères, ces trois amis. Et ils viennent, ils font quelque chose que nous devrions peut-être faire quand on veut aller consoler quelqu'un dans la souffrance. Et en Orient, apparemment, ils avaient le temps. Nous, on n'a plus le temps. On fait une minute de silence, n'est-ce pas, devant un malheur. Mais les trois amis de Job, en venant le voir, déjà, ils sont venus le voir. C'est déjà apporté à leur actif. Parce que nous, quand les amis sont malades ou en souffrance, ils sont à l'hôpital, on dit, non, je vais envoyer un texto, je prie pour toi, mais je ne vais pas les voir parce que si je les vois, j'aurai peur, enfin, je verrai leur souffrance, ça va me ficher un coup. Et comme je ne veux pas être trop pris émotionnellement, je risque de pleurer, ça leur ferait de la peine, je ne me contrôlerai plus, j'aime pas l'odeur de l'hôpital. Et puis, même si j'y allais, je ne sais pas ce que je dirais. Je ne vais pas dire « je te comprends » parce que je ne comprends pas. Je ne vais pas dire « je suis avec toi » parce qu'en fait, je ne suis pas avec lui. Je lui ai dit, je priais pour toi, mais il va me dire à quoi ça sert. Tu vois bien que je suis... Je ne sais pas ce que je dirais, je préfère ne pas y aller. Ces trois amis, au moins, avaient assez d'amitié pour aller le voir. Et ils avaient assez de sagesse et de compassion pour s'asseoir en face de lui, de regarder sa misère et de ne rien dire. Pendant une semaine. Vous imaginez? Vous allez voir quelqu'un et la douleur est telle que vous ne dites rien pendant 7 jours. Vous le regardez en silence. Et c'est souvent ce que les gens préfèrent. Parce que dès qu'on commence à ouvrir la bouche, ça gâche. Surtout si on ne sait pas ce qu'il faut dire. Donc observer le silence dans la compassion, dans la miséricorde, ça fait souvent plus de bien que les paroles qu'on va dire, surtout si ce ne sont pas des paroles qui conviennent. Mais bon, une fois qu'ils commencent à ouvrir la bouche, ça se dégrade. Parce que ces trois amis sont convaincus, c'était culturel, c'était quelque chose qui relevait de la sagesse populaire. Comme on dit, c'est une évidence. Pour eux, c'était une évidence. C'est que ils sont... Leur problème, c'est que Job, il souffre parce qu'il a péché. Voilà le problème. Tu souffres parce que tu as péché. Et puisque tu as péché, eh bien, Dieu te frappe et tu souffres. Par contre, les méchants sont punis par Dieu. Alors, il faut comprendre le raisonnement ici. C'est un raisonnement extrêmement dangereux. C'est un peu comme cette idée-là. Toutes les tables ont 4 pieds. Le cheval a 4 pieds. Le cheval est donc une table. C'est logique, non? Ça sent bien au départ, mais on dit, oh là là, non, 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 non. Il y a un défaut dans le raisonnement. Et c'est de la même manière. On sait que les méchants finiront par être jugés par Dieu. Ça, on le sait. Et donc, on dit, on fait l'inverse. On dit, si vous souffrez, c'est que vous êtes méchant. Et si vous ne souffrez pas, c'est que vous êtes juste. Et c'est ça le problème. C'est un problème qui traverse aussi le mouvement évangélique. Quand on voit quelqu'un, un tel, il a le cancer. Immédiatement, on se dit, non, je ne devrais pas penser à ça, mais est-ce qu'il a fait quelque chose qui fait que Dieu l'a frappé dans le cancer? On commence à regarder un peu dans le passé de sa vie, de savoir, ah oui, il y a 20 ans, je sais qu'il a vraiment passé par un moment difficile, il était très loin de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Et ça y est, le Seigneur a fini par le juger, voyez? Et on va bâtir tout un tas d'hypothèses sur l'idée que s'il souffre, c'est qu'il a fait quelque chose de mauvais. Et c'est la thèse de ces trois amis. Et on ne les fera pas changer d'avis. Ils sont convaincus. Ils disent, les justes et les innocents ne souffrent pas parce que Dieu les protège. Les méchants sont punis. Alors regardez comment ils sont arrivés à cette conclusion. Dans le chapitre 4, versets 12 à 21, c'est Eliphaz, le premier de ses amis, qui engage la conversation. Verset 12, chapitre 4, il dit... Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement, « Un homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau? Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. » Quelle est cette vision? D'abord, cette vision est présentée Et si vous la lisez attentivement, vous dites, mais ça, ça ne vient pas de Dieu. Cette vision nocturne, ça n'a aucune caractéristique d'une communication de Dieu. On voit d'abord que la vision est effrayante. Il y a une figure qui arrive et on murmure à l'oreille. Et puis, il est vrai, un homme serait-il juste devant Dieu, verset 17. On est bien d'accord, aucun n'est juste devant Dieu. Mais regardez comme il dit, verset 18, « Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. » Retenez cette phrase. Dieu est présenté comme quelqu'un qui cherche une faute pour maudire les anges et les hommes. Il n'est nulle mention de la miséricorde, du pardon de Dieu ou de sa patience. On présente un Dieu qui cherche quelque chose à maudire. Satan déteste Dieu, vous le savez. Et qu'est-ce que Satan a fait contre Dieu? Il s'est rébellé contre Dieu, n'est-ce pas? Mais regardez comment cette voix traite le péché de Satan. Il traite cette rébellion de folie. De folie. Est-ce qu'on va juger quelqu'un qui est atteint de folie? On dit non. On va le mettre dans un hôpital psychiatrique. Il est malade. Il n'a plus les moyens intellectuels ou mentaux, émotionnels d'éviter le crime. Et on ne va pas le mettre à mort. On va le soigner. Et Satan dit ici, parce que je crois que c'est lui qui envoie ce rêve, voyez, Dieu cherchait constamment des choses à maudire. Et il a même trouvé de la folie, comme si les anges qui sont rébellés contre Dieu, ce n'est pas vraiment de leur faute, ils étaient atteints de folie. Et puis Dieu les a jugés. Au lieu de dire volontairement, je me suis rébellé contre Dieu. Satan, son péché était volontaire et réfléchi. C'est de la folie dans ce sens que ce n'est pas la sagesse, mais ce n'est pas de la folie dans le sens qu'il a perdu la tête. Tout le monde finit par mourir. Parce que verset, voyez, il dit oui, parce que Dieu juge les gens, verset 19 et 20, il dit nous habitons les maisons d'argile, c'est-à-dire il fait référence au corps humain qui est fait de poussière. Les anges n'ont pas une maison d'argile. Oui, nous, on vit dans une maison d'argile. Et il dit en quelque sorte, tout le monde finit par mourir. Donc, si tout le monde finit par mourir, la seule manière de montrer que Dieu bénit quelqu'un, c'est pendant sa vie. Donc, si pendant sa vie, tout va bien, c'est la preuve que la personne est juste. Et si dans sa vie, le malheur l'atteint, c'est la preuve que la personne est mauvaise. Et comme Job, le malheur a fini par l'atteindre, c'est la preuve qu'il est mauvais. Tout ça bâti de cette vision nocturne qu'ils ont eue pendant leur sommeil. Le ton de cette vision, c'est le cynisme, c'est le désespoir. L'esprit de la vision donne son message, et puis Eliphaz tire ses propres conclusions. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à la conclusion que Job avait fait des péchés parce qu'il souffre. Alors, ils disent des choses qui ne sont pas fausses. Par exemple, verset 16, « L'espérance soutient le malheureux », chapitre 5, « Mais l'iniquité ferme la bouche, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, il fait la plaie, il la bande, il blesse, et sa main guérit. » Oui, tout à fait vrai, et la Bible le cite ailleurs. Mais dans le contexte de Job, Eliphaz lui fait comprendre, tu vois, Job, Dieu est fidèle. Ton iniquité te ferme ta bouche, la bouche. Donc, tu as un péché secret. Dieu te châtie, donc il faut lui confesser ton péché et il te guérira. Et si tu confesses ton péché, tu finiras ta vie en prospérité, tout ira pour ton bonheur. Dans les versets 20 à 27, il dit ça. Si tu confesses ton péché, tout ira bien, Dieu te guérira, tout ira bien pour toi. Et donc, verset 27, il termine et dit, « Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. » Donc, Eliphaz lui explique, tu vois, Dieu nous a révélé le secret dans ce rêve. Tu souffres, ça veut dire que tu as péché, confesse-le, Dieu te guérira. Et ça, c'est la sagesse. C'est ce que Dieu nous a montré dans cette vision nocturne. C'est la sagesse conventionnelle des êtres humains. Écoute bien, tire-en profit, et puis fais ce que tu as à faire, et comme ça tu guériras. Donc, il est sous-entendu que si tu refuses de faire ce qu'on te dit, c'est que tu vas continuer à souffrir, et tu mérites de souffrir. Surtout, tu mérites de souffrir. Alors, dans le chapitre 8, 4 et 5, c'est Bildad maintenant, il dit, si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, et si tu implores le Tout-Puissant, et si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi, et il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Donc ses fameux amis disent, bah, écoute, tes sept fils et trois filles sont morts tous le même jour. Ben, c'est la preuve qu'ils ont péché. Verset 4. Mais toi, tu es encore en vie. Tu souffres beaucoup, mais tu es encore vivant. Donc, Dieu est plus gentil avec toi qu'avec tes enfants. Il te donne l'occasion de te repentir. Mais profites-en. Ne reste pas dans le déni. Voyez ? Tes fils, c'était fini. Mais toi, il te donne une chance. Alors, à la fin, parce que ça continue pendant longtemps, Job se défend, eux l'accusent, ben, ça tourne toujours en rond un petit peu. Et donc, Job 25, versets 4 à 6, c'est un peu une conclusion ou un résumé. C'est Bildad qui donne cette estocade. Dans le verset 4, 5 et 6, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme, qui n'est qu'un vermisseau. » Mais c'est vrai, c'est absolument vrai, il a raison Bildad. L'homme n'est pas pur. Mais dans le contexte où il parle à Job, ils disent, voyez, théoriquement, bon, réellement, l'homme n'est pas pur. En attendant, nous, on est en bonne santé, nous les trois, là. Mais toi, tu es vraiment très malade. Donc, entre pas pur et pas pur, il y en a qui sont moins purs que d'autres. Et ta souffrance montre que tu es moins pur que nous. T'as un péché sucré. Donc, tu devrais quand même le mettre en règle. Donc, on peut vraiment déstabiliser les gens quand on dit quelque chose qui est vrai dans son principe, mais l'appliquer de manière personnelle à quelqu'un et tirer un jugement sur la personne. Alors, ils essaient de lui faire avouer son péché sucré, puisqu'il clame qu'il est innocent. Et donc, on ressent dans ce discours la jalousie de Satan. Pourquoi ? Satan a été condamné par Dieu pour son péché, n'est-ce pas? Satan a fait un péché, il a été condamné pour toujours. Il a voulu être comme Dieu et recevoir l'adoration qui est due uniquement à Dieu. Et Satan, Dieu a vu cette pensée, Dieu a vu ce désir, Dieu a entendu ce discours et Dieu l'a éloigné de lui pour toujours. Il y a une différence entre le péché de Satan et les péchés des hommes. Le péché de Satan a été fait en pleine lumière. Satan connaissait Dieu intimement, il savait que Dieu l'avait créé. Satan était très intelligent, il était même chérubin, gardien de la présence de Dieu. Donc quand il commet le premier péché, en exerçant son libre arbitre, parce qu'il a choisi de pécher, c'est pas Dieu qui l'a fait pécher, il a choisi de pécher. En dépit de tout ce qu'il savait de Dieu, en dépit de son bon sens, en dépit de la vérité, il a choisi de pécher. Il ne peut pas comparer son péché et les conditions dans lesquelles son péché a eu lieu avec les conditions dans lesquelles nos péchés ont lieu. Ce n'est pas qu'on soit innocent, mais il est jaloux. Il dit en quelque sorte, moi j'ai fait un péché, n'est-ce pas ? Être comme Dieu, c'est quand même pas la moindre. J'ai fait un péché, ça y est, condamné pour l'éternité. Eux, ils pêchent, et puis Dieu leur pardonne. Alors, il essaie d'enfoncer les hommes en disant, vous comprenez, de toute façon, vous ne pouvez pas être purs, vous êtes tous des pécheurs, comme moi. N'imaginez pas que Dieu va vous pardonner. Satan est constamment en train de nous dire, n'imaginez pas que Dieu va te pardonner. N'imagine pas que Dieu peut te bénir. Tu es allé trop loin. Et il compare son sort à un autre sort. Il essaie de nous faire croire qu'on est au-delà de tout espoir, comme lui est au-delà de tout espoir. Donc, il déteste Dieu, il méprise les hommes. Il méprise les hommes parce que Satan, il méprise tout ce qui est plus faible que lui. C'est le sadisme. Il nous déteste. Nous sommes plus limités. Nous sommes plus faibles que les anges. Et nous sommes pourtant les objets de l'amour et de la rédemption de Dieu. Et ça, il a du mal. Mais les amis de Job sont sincères. Ils veulent vraiment l'aider. Ils sont vraiment convaincus qu'il lui apporte la solution. Et ils sont très frustrés que Job ne veuille pas reconnaître son péché secret. Il cherche à l'aider à sortir de sa souffrance. Alors, il y a toute une discussion qui a lieu entre un qui parle et puis Job qui répond, un autre qui commence, Job qui répond. Chaque ami parle au moins deux fois et chaque fois ça dure deux, trois chapitres et puis Job le répond. Donc c'est un vrai débat. C'est un peu inégal, vous avez trois hommes en bonne santé, capables de réfléchir tranquillement et analyser le problème de leur ami. Et lui, il est malade, il est dans une souffrance atroce. Quand vous êtes dans une souffrance terrible, on n'arrive presque pas à réfléchir. Et lui, il doit se défendre contre eux. Qui, finalement, voient bien qu'il est malade et ils ont quand même compassion de sa maladie. Mais ils disent, mon ami, tu pourrais en sortir. Il ne tient qu'à toi de sortir de cette épreuve. Confesse ton péché, qu'on en finisse. Dieu te pardonnera, tu verras. Alors, dans le chapitre 6, Job, et je vous donnais juste le résumé de ce qu'il dit. Il dit, ma souffrance me pousse à parler comme je n'aurais jamais osé parler auparavant. Il dit, les choses que je dis, je les aurais jamais dites en temps normal. Mais dans ma souffrance, je parle comme jamais auparavant. Et parfois, quand quelqu'un est dans une grande souffrance, il dit des choses qu'il n'aurait jamais dites normalement. Et nous qui n'avons aucune douleur, on les écoute. Attention, hein, tu vas trop loin là. Ouh là 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 là. Normal, tu ne parles pas comme ça à Dieu. Vous n'êtes pas dans leur état. Apparemment, Dieu ne lui en a pas voulu. Mais il dit, je suis dans une position extrême et c'est vrai, je dis des choses que je ne dirais pas normalement. Il dit, par contre, je peux vous dire, versets 9 et 10, chapitre 6, je suis innocent des péchés dont vous me soupçonnez. Vous êtes sur une mauvaise piste. Je n'ai pas de péché secret que je cache. Dans les versets 14 et 15, il leur dit, mes amis, vous êtes mes amis, non? Ce que j'attends de vous, c'est de la consolation. De la consolation. Même si j'étais un impie, même quand bien même j'étais vraiment quelqu'un de mauvais, vous pourrez quand même avoir compassion de ma souffrance, peu importe la raison pourquoi je souffre. De voir quelqu'un qui a fait les 400 coups et qui souffre, on peut quand même avoir compassion de sa souffrance, même si on ne peut pas justifier ses actes. Même si vous pensez que je mérite cette punition, vous pourrez quand même avoir compassion de moi. Vous pourriez dire, oula, le Seigneur, il te frappe dur quand même, hein? Ça doit être facile, c'est difficile pour toi. On a compassion de toi. Mais qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'avoir cette compassion, je vois dans vos yeux, vous êtes horrifié, vous êtes dégoûté par mon apparence. Vous me regardez, vous avez de la peine à me regarder et vous me le faites comprendre. Il dit, c'est blessant. C'est blessant de votre part de ne pas avoir davantage de compassion pour ma douleur. Il dit, je ne vous demande pas la guérison. Je ne vous demande pas un cadeau. Je vous demande simplement d'avoir un peu de compassion pour moi. Est-ce que c'est trop dur? Vous êtes venu me voir, c'est ce que j'attends de votre part. quand bien même je serai coupable. Alors, il dit, et si vous me croyez coupable d'un péché, parce que vous êtes convaincu que j'ai un péché secret, dites-moi donc quel est mon péché. Dites-moi lequel. Si je vous dis que je suis innocent, vous me considérez comme un menteur. C'est encore plus blessant. Je ne peux rien vous dire. Vous prenez tout le travers, vous pensez que je vous mens. Alors, il dit, et qu'est-ce que j'ai dit depuis que vous êtes avec moi, depuis que vous êtes, qu'est-ce que j'ai dit qui vous a persuadé que je cache des péchés pour lesquels Dieu me punit? Qu'est-ce que j'ai pu dire qui vous a mis sur la piste que j'ai des péchés secrets? Non, vous êtes convaincu que j'ai des péchés secrets parce que vous avez un préjugé. Vous avez déjà une idée que si quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a péché. Vous vous basez uniquement là-dessus. Vous ne vous basez pas sur ce que vous connaissez de moi, ni sur ce que j'ai pu dire. Il n'y a aucun indice. Il n'y a que votre préjugé qui porte un jugement contre moi. Et puis, il finit dans le chapitre 20, 21, versets 7, 16 et 17. Il dit, de toute façon, votre thèse n'est pas juste. Il dit, votre thèse n'est pas juste. La souffrance n'est pas toujours méritée. Ça, je veux qu'on le comprenne ce matin. La souffrance n'est pas toujours méritée. Il y a des méchants qui sont dans la prospérité toute leur vie et qui ne sont jamais punis sur la terre. Parce que la thèse, c'est si vous êtes méchant, vous serez puni pendant votre vie. Job dit non. Et vous et moi, on connaît des gens qui étaient vraiment méchants et qui étaient prospères et qui sont morts dans la prospérité. Donc votre thèse n'est pas juste. Job prend le temps aussi de parler à Dieu, parce qu'à travers, il parle d'abord aux accusations de ses amis, mais il parle aussi à Dieu. Il s'adresse à Dieu à de nombreuses reprises. Il dit beaucoup de choses à Dieu. Dans le chapitre 27, versets 3 à 6, il dit en substance, « Seigneur, je suis innocent, je le sais et tu le sais. » Dans le chapitre 10, c'est un chapitre de crise pour Job. Il dit à Dieu, « Écoute Seigneur, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Parce que Job ne savait pas ce qui s'est passé dans le ciel. Il ne savait pas que ses malheurs venaient de Satan. Il ne savait pas qu'ils avaient, Dieu et Satan avaient eu cette conversation. Il ne connaissait pas les enjeux de son épreuve. Et il pensait, si je souffre, c'est Dieu qui m'envoie les souffrances. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi il me fait souffrir de cette manière-là, vu la relation que j'ai avec lui. Il dit, Seigneur, sachant bien que je ne suis pas coupable, mais que nul ne peut me délivrer de ta main. Tu fais ce que tu veux, tu es souverain. Il dit, Seigneur, ma prière a toujours été pure. Il dit, Seigneur, même mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Il dit, dans ton ciel, il y a un témoin qui m'a vu vivre, qui a vu mon cœur, et il va plaider ma cause. Comment est-ce qu'il sait cela? Sans doute inspiré par l'Esprit. Avant Jésus-Christ, il comprend qu'il y a quelqu'un qui voit dans le ciel, à côté de Dieu, voit ce qu'il en est. Et il dit, ce témoin va un jour témoigner en ma faveur. Et ça, nous l'avons en Jésus-Christ, bien sûr. Job sait qu'il n'est pas parfait. Ce n'est pas par orgueil ou ignorance qu'il affirme son innocence. Dans le chapitre 14, verset 4. Il dit, « Comment d'un être souillé sortirait-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » Il dit, « Je suis né dans le péché. » Il dit la même chose que David. Mes parents étaient des pécheurs, et des pécheurs, il ne peut n'être que des pécheurs. Mes parents sont pécheurs, je suis pécheur, tous les hommes sont pécheurs. Il ne prétend pas être sans péché. Et il offre régulièrement des sacrifices pour ses péchés et pour ceux de sa famille. Il est disposé à confesser tout péché qu'il aurait commis, mais il n'en a pas en mémoire. Il aurait été, et là il dit, je serais menteur de confesser des péchés que je n'ai pas commis. Vous imaginez? Les enfants, vos parents disent, tu as fait ceci, n'est-ce pas? Tu as fait ceci. Si tu ne l'avoues pas, tu auras 10 coups. Si tu l'avoues, tu auras 3 coups. Le gamin, il n'est pas coupable de ce dont on l'accuse, mais il dit, bah, pour avoir 3 coups, je vais confesser que je l'ai fait. Mais en fait, il devrait dire, je ne l'ai pas fait. Je suis innocent. Comment oses-tu dire que tu es parfait? Mais maman, je n'ai pas dit que j'étais parfait. Je n'ai pas fait ce que tu m'accuses d'avoir fait. Et c'est bien ça le sens de Job. Il ne se prétend pas être sans péché. Alors, Job dit au Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu n'écoutes pas mes prières pour être délivré de cette épreuve. Et, mais il ne savait pas que ça faisait partie des règles établies par Dieu. Quand Dieu a permis à Satan d'éprouver Job, dans le contrat, il y a l'idée, Job va peut-être demander à Dieu de mettre fin à ses épreuves, mais Dieu ne va pas lui répondre. Parce que Dieu a permis à Satan de l'éprouver pour montrer que Job est intègre. C'est l'enjeu. Donc Dieu ne peut pas répondre à sa demande de mettre fin à l'épreuve. Pas avant que l'épreuve ait duré un certain temps. Pour prouver qu'il est intègre. Ça, Job ne pouvait pas le savoir. C'est pour ça qu'il dit, je ne sais pas pourquoi tu ne réponds pas à ma prière. Enfin, tu ne réponds pas à ma prière. Je ne comprends pas pourquoi. Et verset, chapitre 23, verset 10, il a des lueurs comme ça, des illuminations. Et dit verset 10, il parle de Dieu, il dit, « Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Pourquoi verset 11, « Mes pompiers s'est attachés à ses pas, j'ai gardé sa voix, je ne m'en suis point détourné. » Job dit, il dit devant Dieu, je suis intègre. Il le dit lui-même. Et Dieu dit, mon serviteur est intègre. Ils sont d'accord. Et il montre que je suis éprouvé. Je ne sais pas pourquoi je suis éprouvé. Mais à la fin de l'épreuve, je vais sortir pur comme l'or. Je vais réussir cette épreuve. C'est ce qu'il dit. Il est convaincu. Dans le chapitre 7, Job est aussi effrayé par des visions nocturnes. Verset 13, il dit, « Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. » Il souffre atrocement, il dit, « Je vais me coucher, je vais dormir, et là, au moins, je ne sentirai pas les douleurs. » Mais il dit, « Quand je dors, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces os. » Il dit, moi aussi j'ai des frayeurs quand je dors, j'ai des songes effrayants. Et il ne comprenait pas pourquoi ces songes étaient effrayants plutôt qu'instructifs. Parce qu'il pense que ses songes viennent de Dieu. Job est convaincu que tout ce qui lui arrive vient de la main de Dieu. Voyez, c'est pour ça qu'il ne comprend pas ces choses vraiment mauvaises. Comme pourquoi tu m'envoies des cauchemars. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé des cauchemars. C'est Satan qui les lui a envoyés. Mais il ne savait pas que Satan avait la permission de l'éprouver comme ça. Il pense que c'est Dieu. C'est pour ça qu'il est dans la confusion. Et on peut le comprendre. Dans le chapitre 23, il dit, « J'ai le désir d'arriver au trône de Dieu, de présenter mes arguments. Seigneur, je viendrai présenter mes arguments et tu me répondras. » Et dans le chapitre 9, il dit, « Je n'arrive pas à t'atteindre. J'aimerais bien qu'il y ait un médiateur à qui je pourrais m'adresser, qui te connaît, qui me connaît. Je parle au médiateur, le médiateur va te transmettre et il va nous permettre de nous rejoindre et de mettre fin à cette terrible épreuve. » si j'avais quelqu'un à qui je pourrais m'adresser, qui pourrait te parler, on pourrait peut-être s'arranger. Il cherche un médiateur, et nous savons que le médiateur est Jésus-Christ. Mais le fait qu'il évoque toutes ces choses-là longtemps avant l'évangile montre que Dieu lui donnait une clairvoyance. C'est un prophète, Job. Dans le chapitre 14, il dit, bon, en attendant ma rencontre avec Dieu, parce qu'un jour je le rencontrerai, en tout cas, j'aimerais, je préfère mourir. Ma situation actuelle me semble sans espoir. Il croyait que s'il mourait, il dormirait. À l'époque, Dieu n'avait pas montré le sein d'Abraham, l'homme riche dans le sein d'Abraham, vous voyez, la consolation pour les sauvés et le tourment pour les non-sauvés. Il ne savait pas toutes ces choses. Donc, il pensait le séjour des morts, tous les morts s'y retrouvent et ils dorment. Au moins, je dormirai et je n'aurai pas de douleur. Le point culminant, bien sûr, c'est Job 19, 25 à 27. Et là, il faut le lire, sinon on ne peut pas dire qu'on a étudié Job. Job, à partir de 19, verset 23, c'est magnifique ce qu'il dit. C'est absolument le point lumineux de tout le livre. 19, à partir du verset 23, il dit, « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. » T'en fais pas, Job, elles sont écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Oui, on a le livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est vrai, le Rédempteur Jésus, c'est le dernier vainqueur. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Effectivement, longtemps après la mort de Job, Jésus se lève. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il exprime, je sais qu'un Rédempteur aura la victoire finale. Je sais que je ressusciterai corporellement. Et avec mes propres yeux, je verrai ce Rédempteur et je sais qu'à cette rencontre, il me sera favorable. Témoignage que nous pouvons tous prendre aussi. Mais lui, il a dit 2000 ans avant Jésus-Christ. Et sachant très peu de choses, Dieu lui a fait une révélation extraordinaire. Certains accusent Job d'orgueil ou de prétention, mais ce n'est pas le cas. Il a dit, « Voici quand même Dieu me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela peut même servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. » Donc il dit, « Je sais que je suis intègre devant Dieu. » Il avait l'assurance de la foi, son cœur ne le condamnait pas. Vous savez ce que dit l'apôtre Jean? Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et Job avait cette assurance devant Dieu pendant toute l'épreuve. Il a dit, je n'arrive pas à l'atteindre et je ne sais pas pourquoi il me envoie ses jugements, mais je sais que quand je pourrai l'atteindre, ça se passera bien entre nous. Il dit, je sais dans mon cœur que je suis honnête devant Dieu et je sais que Dieu sait que je suis honnête devant Dieu et je sais quand je le verrai, il m'approuvera. Mais je ne peux pas l'atteindre en ce moment et je ne m'explique pas pourquoi il y a toutes ces épreuves. Mais je peux vous dire, ce n'est pas parce que j'ai un péché secret à condamner. Quoi que disent mes accusateurs et mes soi-disant amis, ils sont sur une fausse piste. Est-ce que Job est allé trop loin? Non. Job n'est pas allé trop loin. Tout ce qu'il a dit était vrai. Dieu lui-même approuve Job à l'issue de l'épreuve. Job 42, verset 7. Il dit à Éliphaz de Théman, un de ses misérables amis, Dieu dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Même avec ce que Job a dit à Dieu, il n'y avait pas de la rébellion. Il n'y avait pas de cynisme. Il y avait de la confusion. Il était troublé. Il ne comprenait pas pourquoi ça se passait. Et il était frustré de ne pas atteindre Dieu. Mais il savait que Dieu est juste. Et s'il pouvait un jour le rencontrer, ça se réglerait. Et sans savoir les enjeux autour de son épreuve. Pour conclure, nous apprenons par l'exemple de Job que les épreuves ne sont pas forcément liées à nos péchés. Nos épreuves peuvent être liées comme le résultat du péché d'un autre. Peut-être quelqu'un a péché et vous avez subi des effets de leur péché. Beaucoup de nos épreuves sont tout simplement liées à la condition humaine. Notre santé, tout le monde n'est pas à égalité sur le plan de la santé. Le cancer peut atteindre les corps des gens les plus sains, les plus près de Dieu, comme des gens les plus loin de Dieu. Le vieillissement atteint tous les êtres humains. Des gens qui sont athées, comme des gens qui aiment le Seigneur profondément, peuvent perdre un enfant par fausse couche ou bien peuvent perdre un enfant en bas âge. Comme notre frère a témoigné, un frère qui perd sa fille à l'âge de, c'était 25 ans, dans un accident de la circulation. J'ai perdu ma mère dans un accident de la circulation. Elle avait 66 ans, elle avait servi Dieu toute sa vie. Dieu a choisi de maintenir mon père en vie pendant 20 ans de plus. Il n'y a pas de liaison de péché, voilà. C'est dû à la condition humaine. Dieu a décidé combien de temps nous vivrions. Il a écrit dans son livre tous les jours qui nous étaient destinés. C'est parfaitement son droit. Et nous ne pouvons pas mourir avant que Dieu ait décidé que notre temps est terminé. Vouloir à tout prix comprendre la raison d'une épreuve ou attribuer une cause à l'épreuve peut être dangereux. On peut accuser à tort soi-même, on peut accuser les autres et ça va provoquer bien d'autres souffrances morales. En plus de la souffrance physique, on peut éprouver les gens moralement soi-même en imaginant que je suis la cause de ma maladie ou un autre est la cause de ma maladie et accabler les gens. Il y a aussi un argument diabolique, il faut se méfier de cet argument. Satan dit, Dieu est pur, ce qui est vrai. Tout ce que dit Satan a un élément de vérité. C'est pour ça qu'on a du mal à discerner. Il faut toujours séparer les phrases de Satan en deux parties. La première partie est souvent vraie. Dieu est pur, ok. Donc, écoutez la suite. Dieu ne s'intéresse pas aux hommes pécheurs. Mortels, imparfaits et limités. Dieu est pur, donc il ne s'intéresse pas à vous. Donc, il ne s'intéresse pas à vous. Est-ce que c'est une conséquence logique? Non, ce n'est pas une conséquence logique. Ce mépris et ce dédain viennent du diable. Vous savez, vous ne comptez pas pour Dieu, vous êtes des grains de poussière. Dieu, il est souverain, il est éternel, il ne s'intéresse pas à vous. C'est diabolique, cet argument-là. Dieu n'est pas indifférent à nos épreuves. À aucun moment, quand Job était en train de souffrir, Dieu ne lui était indifférent. Il n'a pas pu lui répondre. Il n'a pas expliqué la raison de l'épreuve, ça appartenait à Dieu. Il n'a pas dit à Job en texto, je vais t'envoyer une terrible épreuve, prépare-toi. Avec Satan, on a fait un pari, il faut faire en sorte qu'il perde. Je te fais confiance, tu vas avoir des ulcères, ça va être horrible. Je vais se faire durer 6 mois, à bout de 6 mois, je vais te guérir, tu auras le double. Donc, tiens bon, serre tes dents, ça commence. Tu n'as rien fait de mal, tu as ma confiance. Ça aurait été plus facile pour Job, il aurait pu expliquer à ses amis, Voilà, Dieu m'a dit que, et tac, tac. Mais c'était ça l'épreuve. C'est connaître toute la souffrance sans savoir le pourquoi, ni la durée, ni la... Voilà, c'était ça l'épreuve. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu quand on ne comprend rien? C'est ce que Job a fait, il a fait confiance à Dieu alors qu'il ne comprenait rien. Et donc, Dieu n'est pas indifférent à nos épreuves, il les surveille, il nous surveille de près et il nous surveille avec miséricorde et bienveillance. C'est une certitude que la parole nous donne. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.